Je vous avoue que ça fait quelques jours qu'il y a un verset qui s'est imposé à mon cœur. J'ai prié, j'ai beaucoup prié. Parce que vous comprenez bien qu'en tant que pasteur, les gens qui me connaissent à l'extérieur de l'Église me demandent ce que je pense de ce qui se passe. Partout, on me le demande, tous les jours presque. Monsieur Gau, pasteur, que pensez-vous des événements ? Et l'autre jour, je priais, j'ai beaucoup prié. Parce que je sais, on en parlait avec Monsieur Olé jeudi à la réunion des anciens, je sais combien il y a une grande différence entre être pasteur et puis s'orienter vers le ministère de prophète où on amène la pensée de Dieu. Vous savez, c'est une chose de prêcher. Est-ce que vous me comprenez ? Prêcher, c'est une chose. Apporter une méditation avec la Bible, tout le monde presque peut le faire, enfin... Façon de parler, prendre un texte et le méditer, et puis travailler, laisser le Saint-Esprit vraiment nous travailler de telle sorte que nous recevons la pensée de Dieu pour l'Église. Et je crois l'avoir reçue. Je ne suis pas toujours très inspiré, je le sais. Mais il y a des moments où le Saint-Esprit peut nous parler d'une manière particulière pour que les gens... Parce que Dieu aime les gens. C'est une question de parler. C'est parce que Dieu nous aime et il a des choses à nous dire. Alors j'aimerais qu'on lise plusieurs textes, vous les méditerez, vous pouvez les prendre. Prenez-les même sur un bout de papier, prenez-les et méditez-les. Il n'est pas possible de retenir tout ce qui va être dit en demi-heure, c'est pas possible. Je vous encourage à les noter, non pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que ça va vous aider dans les cultes personnels à méditer. Dans le psaume 2, il y a un psaume qui nous parle de Jésus-Christ qui revient, du Seigneur qui reviendra. Et le texte a bien sûr un contexte, comme c'est évident chaque fois. Et regardez le contexte dans lequel va se trouver le monde lorsque Jésus va revenir. Psaume 2. Voilà, je vous signale qu'il y a une nurserie à côté au cas où. Psaume 2, verset 1er. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils. De peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Vous avez lu les évangiles et vous savez que à un moment donné, les apôtres se sont approchés de Jésus et lui ont posé certaines questions qui relatent par rapport à l'enlèvement, au retour de Christ. À certains signes, quel sera le signe de ton avènement? Il y a dans le cœur des hommes ce désir de savoir, mais quand est-ce que Jésus va revenir? Quand est-ce que tu reviendras? Jésus les a de suite calmés en leur disant, ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment. Mais il y a malgré tout des choses qui ont été écrites dans la parole de Dieu qui nous permettent de comprendre. Alors, parfois, on parle des signes. Les tsunamis, les tremblements de terre, ce sont des signes. Moi, je ne suis pas sûr. Parce qu'il y en a tout le temps eu. Il y a tout le temps eu des tremblements de terre. Bien sûr, ils vont en s'intensifiant. Il y a tout le temps eu des guerres. Des guerres, il y en a tout le temps eu. Des bruits de guerre, il y en a tout le temps eu. Et il y a par contre des choses qui se sont passées et qui nous laissent à penser que Jésus est très proche. Lorsque Jésus parle de Jérusalem, qui sera investie par les nations, foulée aux pieds, et vous avez vu ce qui s'est passé depuis l'an 70, où Jérusalem a été investie, où les nations ont cherché toujours les nations. Je pense aux Égyptiens, je pense aux Babyloniens, enfin dans la Bible, je pense aux Perses, c'est-à-dire la Grèce actuelle, les Assyriens, etc., qui ont cherché à détruire Israël, même les croisés. Parlons pas trop des autres. Et le peuple d'Israël a été asservi, longtemps asservi, de l'an 70 à l'an 48. Vous connaissez un peu l'histoire d'Israël, on ne va pas récapituler tout. Et vous savez comment, après l'Holocauste, Dieu a ouvert les portes pour que Israël redevienne une nation. Et en 1948, Israël a été reconstruit. Et depuis, les Juifs de partout reviennent en Israël, de partout. Et ce qui se passe aujourd'hui va contribuer à ce que certaines prophéties se réalisent où les Juifs seront contraints à rentrer dans leur pays. Ce que vous voyez est biblique, c'est prophétique, ne soyez pas affolés, c'est quelque chose de normal. D'ailleurs, je lisais l'autre jour la prière des Juifs, depuis que Israël a été dispersé. J'en ai mis qu'un résumé. Ramène-nous dans notre nation. Rassemble-nous dans notre ville sainte. Envoie ton Messie. Voilà la prière que les Juifs font depuis 2000 ans. Ramène-nous dans notre nation. Et le Seigneur les a ramenés. La Bible parle du temps des nations. Je suis en train de préparer une étude sur l'Apocalypse. On entend tellement de choses sur la révélation de l'Apocalypse que je suis en train de préparer une étude. Je voudrais qu'elle soit pratique, c'est-à-dire que ça soit à la fois de l'exhortation, de l'enseignement et de l'évangélisation. Pour aider les gens, non pas à avoir une connaissance super, une satisfaction de l'étude, mais vraiment une prise de conscience de ce que Jésus va revenir. Donc de partout, vous entendez, même d'Éthiopie, les Juifs qui reviennent en Israël, vous entendez des choses extraordinaires. Mais l'autre jour, en priant dans ma voiture, je priais parce que vous comprenez bien que la prédication, je ne la prépare pas le samedi soir à 9h. Je priais vraiment. J'étais contraint de prier. Et je pensais à tout ce qui se passe, comme vous. Vous priez par rapport à tout ce qui se passe. Je priais, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre? Comment l'expliquer à l'Église? Et il y a un verset qui s'est vraiment imposé à mon cœur. On aura le temps, j'espère, de revenir sur le psaume 2. Mais dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, vraiment, un verset s'est imposé à mon esprit. Et je me suis douté que c'était le message que je devais vous apporter ce matin. C'est pour ça que je vous faisais la différence entre le pasteur et le prophète. Il y a des prédications, mais il peut y avoir vraiment la pensée de Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, on va lire à partir du verset... On va prendre à partir du verset 7. C'est le verset 16 qui nous intéresse, mais c'est bien que vous regardiez comment Dieu sait rappeler à quelqu'un son alliance. On en parle souvent dans les chants, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais on rappelle souvent l'importance que Dieu n'oublie jamais ses promesses et son alliance. Regardez avec moi, Genèse chapitre 15, verset 7. Donc c'est un entretien que Dieu a avec Abraham. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mis chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Et voilà le verset que le Seigneur m'a donné. L'iniquité n'est pas encore à son comble. D'un côté, Dieu confirme l'alliance qu'il fait avec Abraham, qu'il avait faite avec Abraham. Une promesse, parce que régulièrement, nous aussi, nous avons besoin d'être renouvelés dans les promesses que Dieu nous a faites. Mais là, Dieu confirme sa parole. C'est important parce qu'il y a de la souffrance. On a tous des moments où on souffre, tous des moments où on ne comprend pas. Et Dieu va renouveler cette promesse. Alors j'ai lu dans un commentaire justement qu'à l'époque, il n'y avait pas de notaire. Lorsque l'on faisait un contrat, c'était de cette façon-là que ça se passait. J'ai été très étonné, c'était une coutume, lorsqu'un contrat était fait, que lorsqu'on voulait sceller un contrat, eh bien on prenait les animaux, on les coupait en deux et on passait au milieu. C'était une manière de dire, si je suis infidèle au terme de ce contrat, que je sois traité comme ces animaux. Voilà ce que j'ai regardé dans un commentaire, ça m'a beaucoup plu, parce que Dieu a utilisé ce qui se passait. D'ailleurs, je voudrais lire les textes d'Amourabi, etc., qui indiquent ce qui se passait à l'époque, parce qu'on n'a pas ces textes. Enfin, ça, c'est personnel, c'est peut-être pour indiquer à ma femme le prochain livre qu'il faut qu'elle m'achète. Mais en tous les cas, une chose est sûre, au terme de cette affaire, un contrat était conclu. C'est comme si on avait été chez le notaire. Dieu voulait expliquer à Abraham que l'alliance qu'il a faite avec lui, il l'a scellée. Vous savez, les alliances que font les hommes, parfois, elles ne tiennent pas longtemps. Mais l'alliance de Dieu, elle est éternelle. Dieu s'engage d'une manière totale. Ce pays, je te le donne. Dieu a donné le pays d'Israël aux Juifs. Il faut que nous le comprenions avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Je te le donne d'une manière irrévocable. Et vous remarquez que, pourquoi je parlais de souffrance? Parce que quand je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer, mais en vérité, dans la voiture, je priais. Je priais, je me posais cette question. Je me posais cette question que je ne m'étais jamais posée, mais pourquoi Dieu a-t-il voulu que les Hébreux restent 400 ans en Égypte? Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Oui ou non? On peut se la poser. En fait, peut-être que vous n'en êtes pas là, mais c'est normal qu'on se pose la question, pourquoi Dieu a-t-il permis que ce peuple souffre aussi longtemps en Égypte? C'est une question vraiment que je me suis posée. Pourquoi tant de temps? Dieu aurait pu permettre 100 ans. C'est déjà long, 100 ans. Non? 400 ans. 400 ans. Et c'est vrai que ce texte que nous avons lu nous montre que Dieu juge les nations qui oppriment Israël. Ça, il ne faut pas l'oublier. Toutes les nations qui ont opprimé Israël ont été jugées par Dieu. Vous avez vu le verset 14, « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. » Toutes les nations, à commencer par l'Égypte qui était à l'époque la puissance la plus grande. Babylone, c'était une puissance incroyable. Toutes les puissances, et même la dernière, pour ainsi dire, la dernière, c'est quand Hitler a essayé de détruire Israël. Oui ou non? Il a essayé. Il n'a pas pu. Tous les peuples, c'est comme ça. Tous les peuples qui ont essayé de détruire Israël, Dieu les a jugés. C'est clair. Alors, ce n'est pas le sujet, mais en fait, c'est pour vous expliquer que ça ne sert à rien si on n'a pas compris certaines choses. Et en hébreu, j'ai cherché la traduction, c'est même pas au futur, c'est au présent. Le peuple qui vous opprime, moi l'Éternel, je le juge. Ça nous montre bien que c'est quelque chose d'arrêté. Donc, Dieu dit à la quatrième génération, ils reviendront dans ce lieu. Car l'iniquité, écoutez bien mes frères et sœurs, vous comprendrez ce qui se passe. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voilà pourquoi Dieu a attendu 400 ans qu'Israël souffre en Égypte, parce que d'un autre côté, avant que le jugement ne tombe, il fallait que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est un petit peu la même chose. Il y a des choses qui doivent se passer. On pourrait lire dans Romains au chapitre 11, il y a un texte qui nous parle, c'est la même chose. Romains chapitre 11, verset 25, vous pourriez lire tout le contexte pour mieux comprendre. Cette prédication, peut-être que vous n'allez pas tout comprendre sur le moment, mais je voudrais que vous y réfléchissiez. Romains chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme, que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Il y a dans le cœur de Dieu des temps. Est-ce que vous savez que Dieu fait les choses en son temps? Tout est préparé, tout est précis. Dieu sait ce qui se passe partout sur la terre. Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Il sait ce qu'il doit faire. Le peuple d'Israël, oui, peut souffrir. Le peuple de Dieu aujourd'hui souffre. Est-ce que le peuple de Dieu ne souffre pas sur la terre? Oui. Mais Dieu attend parce que Dieu aime le pécheur. Et si Dieu nous aime à nous, ses enfants, n'oubliez pas que malgré tout, Dieu aime aussi les pécheurs. Nous, on a du mal avec ça, non? Parce que nous, on aimerait bien que Dieu fasse justice. Vous n'aimeriez pas Dieu, que des fois Dieu fasse justice? Allez, répondez-moi. Hein, vous, Seigneur, fais justice. Quand on voit les reportages sur l'Holocauste, on se demande pourquoi Dieu n'a pas été intervenu en 1939, 40. Oui ou non? Nous, vous ne serez pas intervenu? Oui, moi je serais intervenu, je suis sûr. Ah mais oui, franchement. Il faut comprendre certaines choses pour comprendre le plan de Dieu. Parce que trop de chrétiens sont en train de s'embarquer dans des trucs parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. La preuve, c'est qu'avec ce qui s'est passé il y a 15 jours en France, moi j'ai vraiment réalisé qu'un truc grave, c'est que des chrétiens ont perdu la conscience. Je ne parle pas de foi, je parle de conscience. Et des païens ont gardé la conscience. Avec tout ce qui s'est passé. Vous savez, ça fait réfléchir quand même. Il y a des païens qui sont capables de condamner l'injure, le blasphème, et il y a des païens qui n'y voient rien du tout. Des chrétiens, pardon, merci. Ça vous montre ce que Paul dit dans son épître, qu'il y en a qui ont perdu la foi et ils ont perdu la conscience. Mais il faut comprendre, il y a des choses, il faut les comprendre, elles n'ont pas été écrites juste comme ça. Tout a été écrit pour notre instruction. Dieu aime tous les hommes, vous le croyez? Toutes les créatures, quelles qu'elles soient. Et Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il est dit qu'il veut qu'il se repente. Et Dieu est patient, croyez-moi que Dieu est patient. Quand vous regardez comment Dieu parle aux chrétiens de l'église de Thyatire, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, ne le cherchez pas. Il dit par rapport à une femme qui met la pagaille vraiment dans le peuple de Dieu, Jézabel, qui fait allusion certainement à ce qui se passe dans l'Ancien Testament, il dit « Mais je lui ai donné du temps ». Dieu donne du temps, afin qu'elle se repente. Je lui ai donné du temps. Nous, on aimerait que... Est-ce que vous aimeriez que Jésus revienne le 26 janvier? Est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez que Jésus revienne le 26 janvier? Mais Dieu donne du temps. Pourtant, quand vous lisez certains textes, on se dit, comment c'est possible? Dieu donne du temps. Regardez dans l'épître de Pierre, les moqueurs des temps de la fin. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Mais où est la promesse de son avènement? Et il a dit qu'il viendrait. Il y a déjà 2000 ans qui racontent ça. Et non, mais vous plaisantez ou quoi? Tout ça, c'est des balivernes. Non, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et Pierre dit, mais n'oubliez pas non plus que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Il faut qu'on le comprenne. Mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà ce qui est écrit dans Romains au chapitre 2. J'espère que vous avez médité ce chapitre 2 de livre Romains. Quand Dieu dit, mais enfin je le dis en français courant, mais tu vois pas que Dieu use de patience. Dieu use de patience envers toi. Il parle à chacun, envers toi, parce que ton cœur impénitent, ton cœur dur, endurci, t'empêche de comprendre ces choses. Et tu ne te rends pas compte, c'est pas écrit comme ça, mais presque, tu ne te rends pas compte que tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et du juste jugement, de la manifestation du juste jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, il vient. Vous croyez que le jugement de Dieu vient? Est-ce qu'il vous faut un dessein? Est-ce que vous ne croyez pas que le jugement de Dieu, vraiment, il vient? C'est ce que j'ai répondu aux gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, la colère de Dieu, elle vient. Mais il faut que l'iniquité de notre monde soit à son comble. Vous allez me dire, ah, mais c'est déjà pas mal, hein? Oui, c'est grave. Moi, je trouve que quand on en arrive à ce blasphème, comme on l'a vu, et si vous n'avez pas été choqué, soyez-le maintenant. Parce que si vous n'êtes pas choqué par le blasphème contre Dieu ou contre les religions, c'est que vous avez perdu la conscience. Je ne vais pas vous le dire autrement. C'est grave, hein? Vraiment, vous allez mal si vous êtes d'accord avec le blasphème qu'en France, on ait la joie de donner l'exemple des lois anti-blasphème. Non mais, c'est grave, hein? Je ne sais pas si vous le réalisez, mais c'est grave. Et heureusement qu'il faut comprendre ces choses, que Dieu est lent à la colère, hein? Parce qu'on ne serait peut-être pas là. Vous le croyez que Dieu est lent à la colère, hein? Plein de miséricorde, plein de bonté, plein d'amour, plein de tendresse, etc., etc. Croyez-moi, on peut bénir Dieu pour sa miséricorde infinie. Car si le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est parce que tout simplement, l'iniquité n'est pas encore à son comble. Mais croyez-moi, avec ce qui vient de se passer, laissez-moi vous dire, en France en plus, on est vraiment mal, excusez-moi l'expression, mais on est vraiment mal barré. Et malheur aux hommes qui ne sont pas sous le sang du Seigneur. Malheur aux hommes qui ne sont pas sous le sang du Seigneur. Heureux ceux qui ont du sang sur les poteaux et les linteaux des portes. Heureux si vous êtes sous le sang du Seigneur. Heureux êtes-vous si vous dites, oui, moi, dans mon cœur, il y a longtemps qu'il y a du sang sur les poteaux et les linteaux de ma maison spirituelle. Heureux êtes-vous, mais malheureux êtes-vous si vous n'avez pas mis le sang de Jésus dans votre vie. Oui, Dieu est lent à la colère. Oui, Dieu est plein de miséricorde. Et on ne peut pas, au nom de la colère et au nom du jugement, faire abstraction de son amour et de sa miséricorde. Ça serait grave. Le diable utiliserait tout ça pour faire une espèce de chantage morbide. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu sait attendre. Dieu sait suspendre ses jugements. Il sait attendre le temps qu'il faut pour que personne ne se retrouve devant lui en disant « Oui, tu ne m'as pas donné de chance ». Tous les hommes sur la terre auront eu la chance de crier à Dieu. Tous. Vous croyez que Dieu sait? Dieu sait. Personne, surtout les gens pour qui vous priez, mais les autres aussi, personne sur la terre. Personne. Cette semaine, j'étais dans un garage parce qu'il fallait que j'y aille. Et j'ai vu une secrétaire à qui j'avais pu témoigner. Ah, elle me dit, monsieur Gou, vous allez bien, parce que j'avais été juste après l'AVC. Elle avait dû voir que c'était pas tout ça fait ça. Ah, monsieur Gou, vous avez récupéré, etc. Et ça me permet de témoigner à l'autre secrétaire. Et à l'autre secrétaire, je dis, mais vous savez, moi j'ai le cœur rempli d'espérance. La mort, ça m'était égal, mais vraiment entièrement égal, entièrement. Mon cœur est rempli d'espérance. Elle me dit, c'est pas vrai. C'est la troisième personne à une semaine qui me parle de ne pas avoir peur de la mort et que je devrais me remettre à Dieu. J'ai dit, mais écoutez, ce serait temps que vous le fassiez. Mais voyez comment, pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que Dieu permet que sa parole soit prêchée. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette grâce de Dieu sur nous pour savoir témoigner, distribuer un évangile, etc. Mais Dieu sait suspendre son jugement. Dieu sait donner l'occasion à un pécheur de prier. Regardez, je regardais cette semaine, je regardais les fois où Dieu a jugé. Vous avez lu l'histoire de Noé? Vous avez lu l'histoire de Noé? Bon, ça a duré longtemps, une centaine d'années, la construction de l'arche. Et au moment voulu, lorsque Dieu envoie les animaux, ça devait, pour les voisins, ça devait être quelque chose d'impressionnant. tous ces animaux, alors non, il y a des photos qui vous viennent à l'esprit, hein, les deux éléphants, les deux girafes, etc., qui rentrent dans l'arbre. En fait, tout ça, ça s'est véritablement passé. Dieu faisait en sorte que chaque coup de marteau rappelait la grâce et le jugement qui allait venir, parce que la construction de l'arche, exactement comme la construction de l'église, c'est, ça rappelle, comme chaque prédication, rappelle l'amour de Dieu et rappelle le jugement de Dieu qui vient. Ça se tient. Et lorsque tous les animaux sont rentrés dans l'arche, Dieu a attendu encore 7 jours. Il y en a qui devaient dire, mais qu'est-ce que ce pauvre Noé, le pauvre. Dieu a attendu 7 jours. Il aurait pu, quand le dernier lapin est rentré, il aurait pu fermer la porte, oui ou non, hein? Ou la tortue plutôt. Mais vous êtes d'accord avec moi, quand le dernier animal est rentré, Dieu aurait pu fermer la porte, et voilà. Dieu a attendu 7 jours. Voilà la miséricorde du Seigneur, qui toujours, toujours donne l'occasion aux pécheurs de venir à lui ou de revenir à lui. C'est comme ça, vous pouvez le relire dans la Genèse, c'est comme ça, c'est son amour, c'est sa patience. Les gens s'imaginent, vous avez lu les psaumes, il y a des psaumes qui sont un peu troublants, dans le sens où certains sont frustrés par ce qu'ils sont en train de vivre, et comment ça se fait que les pécheurs prospèrent, et que moi le juste, je souffre. Vous avez lu les psaumes, ça fait réfléchir quand même certains psaumes. Mais en fin de compte, les gens s'imaginent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a un psaume où il est dit, mais Dieu ne fait ni bien ni mal. Je fais ce que je veux. Vous avez lu les psaumes? Je fais ce que je veux. Dieu n'agit pas. Je fais comme ça me plaît. Et les gens s'imaginent, parce que Dieu n'agit pas, qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Nous l'avons suffisamment vu dans notre cher pays. Mais le péché va atteindre son comble. Mes frères et sœurs, il faut que nous comprenions bien une chose. C'est que nous, on a nos idées, le Seigneur va revenir. Oui, parce que, comme le rappelait Jean-Son tout à l'heure, et c'est dans ma conclusion, quand vous verrez ces choses, sachez que votre délivrance est proche. Regardez Sodome. Sodome. Alors, il y a des gens qui se sont moqués, parce qu'on se moque. Les moqueurs, il y a des moqueurs, on appelle ça les détracteurs. Il y a des détracteurs qui lisent la Bible uniquement dans le but d'essayer de prouver que toutes ces choses sont fausses. Quand Dieu parle de Sodome, regardez avec moi dans Genèse, c'est pour vous expliquer qu'il ne faut pas écouter les moqueurs et les détracteurs. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu parle du jugement de Sodome, on va lire que ce qui nous intéresse. Dieu dit donc à Abraham, voilà ce qui va se passer. Mais comme nous, les chrétiens qui ont la communion avec Dieu, on sait que le jugement va venir. D'après vous, sur 100 croyants en France, sur 100 croyants, combien d'après vous croient que Jésus va revenir? Je ne parle pas 100 pentecôtistes, hein, je parle sur 100 chrétiens, 100 croyants. Combien croient vraiment au retour de Jésus-Christ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui croient vraiment à l'enlèvement de l'Église. Ceux qui y croient, ce sont ceux qui ont une communion avec Dieu. Ils savent que c'est vrai, ils le savent. Dans le livre de la Genèse, voyez, au verset 20, l'Éternel dit donc à Abraham, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru. Leur péché est énorme. Chapitre 18, verset 20. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Voyez, on voit combien La tendresse de Dieu, l'amour. Est-ce que Dieu savait exactement ce qui se passait à Sodome? Mais bien sûr. Alors, les gens disent, oui, mais si Dieu est tout souverain, si Dieu était si grand, qu'est-ce que c'est cette affaire de descendre? Il va descendre, alors il ne sait pas ce qui se passe du haut de son ciel. Mais mes frères et sœurs, ça nous montre une chose. C'est que Dieu est plein d'amour et qu'avant d'exercer ses jugements, c'est ça que ça veut dire. Avant d'exercer ses jugements, il veut manifester sa bonté. D'ailleurs, la preuve, quand Abraham est conscient qu'il va y avoir le jugement, Abraham connaît Dieu. Il dit, mais Seigneur, s'il y a 50 justes, tu ne vas pas faire périr toute une ville s'il y a 50 justes. D'accord, s'il y a 50 justes, je ne ferai pas périr la ville. Après, mais attends, Seigneur, je me suis trompé. S'il manque 10 justes à ces 50, s'il n'y en avait que 40, d'accord. Jusqu'à 10. Donc Dieu savait très bien combien de gens il y avait de justes dans la ville de Sodome. Dieu sait exactement combien il y a de justes à Toulouse. Il le sait. Il le sait exactement. Et quand Dieu dit « je vais descendre pour voir », mais c'est une preuve du soin de Dieu, de la tendresse de Dieu. Nous, on est là parce que quand on parle du jugement, de la colère, je vais faire une étude sur l'Apocalypse. Pas pour que vous voyez la colère de Dieu, pour que vous voyez l'importance aux chrétiens de se préparer. Mais mes frères et sœurs, quand vous étudiez la Bible sérieusement, vous voyez une chose, c'est que Dieu n'exerce pas ses jugements n'importe comment. Avant de juger, Dieu prend soin de faire en sorte que le dernier des pécheurs qui veut rentrer puisse rentrer. La preuve, vous l'avez. D'accord, il dit à Abraham, d'accord. S'il y a 10 justes, je ne juge pas la ville. Oui, Dieu savait très bien. Et faites attention quand vous lisez des bouquins. Ou quand vous écoutez des non-croyants ou des moqueurs, on ne se moque pas de la parole de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Cette semaine, il y a un pécheur qui me disait, par rapport à ce qui s'est passé dans ce fameux journal, il me disait, un pécheur, ce que l'on sème, on le récolte. Un pécheur. Oui. Oui, Dieu patiente. Dieu patiente. En attendant, c'est clair. Le juste souffre, c'est clair, parce que Dieu patiente envers le pécheur. Relisez certains psaumes, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous le comprendrez. Mais Jésus a dit d'un côté qu'il abrégerait la souffrance de ses élus. Est-ce qu'il a dit ? Oui. Et d'un autre côté, le pécheur attire le jugement de Dieu. Est-ce qu'il vous faut une explication ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on est en train, le monde est en train d'attirer le jugement de Dieu ? Je ne sais pas. Si vous vous rendez compte. Mais il y a une limite. Il y a une limite. C'est pour ça que Dieu dit, je vais descendre et je vais voir. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mon jugement, je l'exerce exactement quand il faut et comme il faut. Je parlais de 1948, de 1968, quand Jérusalem a été récupérée par les Juifs, que ça a été la liesse dans le monde juif. Mais vous avez vu, en 67, pardon. Et vous avez vu ce qui s'est passé en 68 en France ? Moi, j'avais 10 ans. Mais je peux vous dire que je me suis un peu renseigné. Quand je vois l'exemple que la France a donné dans le monde entier, une génération qui s'est rebellée contre Dieu, moi j'ai vu quelques reportages, j'ai regardé quelques trucs, comment la France s'est révoltée contre Dieu et a donné l'exemple. Quel exemple ? L'exemple entre guillemets, bien sûr. Le péché a été banalisé comme ce n'est pas possible. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais nous comprenons que lorsque justement les nations opprimeront Israël jusqu'à ce qu'Israël redevienne une nation, ce qui s'est passé, et le péché est en train de venir à son comble. C'est pour ça que c'est la preuve que la fin est proche. En comparaison avec tout ce que je vous disais tout à l'heure sur les tsunamis et le reste. Les nations sont en train de mettre le comble au péché. Vous avez vu le psaume 2, « Brisons les liens ». C'est avant le retour, ça. Hein? « Délivrons-nous de leurs chaînes ». On ne veut pas. D'ailleurs, mon épouse me disait qu'elle a entendu aux infos un gars qui disait « Il faut être irrespectueux, irrévérencieux ». C'était quoi exactement ? Irrespectueux ? Je n'entends pas. Irrévérencieux, soyons irrévérencieux. Mais vous vous rendez compte, on est là et les gens applaudissent. Et les gens applaudissent. Avant le règne de Christ, vous relirez le psaume 2, parce que ça suffit pas tout seul. Le monde choisira de ne pas avoir d'autorité spirituelle. Ils ne veulent pas, on fête Noël, la naissance de Jésus, mais tout ça c'est du théâtre. C'est du théâtre, c'est pas plus. On ne veut pas l'admirer, on dit il est admirable. Moi j'ai été surpris lorsque j'ai vu dans l'Apocalypse que c'est le diable qui va admirer. Apocalypse chapitre 13 verset 3. Mais vous comprenez que le monde est en train de faire un choix. Ce qui s'est passé en France il y a 15 jours et les réactions de notre gouvernement et les réactions des gens vous montrent que les gens se positionnent pour Christ. Ou contre Dieu, surtout contre. Mais les chrétiens quand même. Apocalypse chapitre 13, n'oubliez pas qu'on avait dit, on l'appellera admirable. C'est ce que tous les chrétiens du monde ont célébré dans toutes les églises. Dans toutes les églises du monde, il est dit, on l'appellera admirable. Regardez Apocalypse chapitre 13 verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. L'Apocalypse, si vous voulez, les jugements que nous voyons dans l'Apocalypse, ce sont des jugements qui vont arriver après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, je suis catégorique, je suis formel, parce que ça va remplir la terre. Ce qui s'est passé en France, vous avez vu, ça donne une image, une idée de ce qui arrivera après. Ça remplit la terre. Vous avez remarqué que ça n'a pas touché que Paris, que la France. Ce qui est arrivé en France, ça touche la terre. Et c'est une des preuves, que nous sommes dans les prémices de la colère. Parce que ça n'a pas touché qu'un pays, ça touche tout le monde. Et mes frères et sœurs, il faut que nous soyons sérieux avec ces choses, parce qu'un jour, le dernier païen, comme on l'a lu tout à l'heure dans Romains 11, il va rentrer. Dieu sait combien de gens iront au ciel. Est-ce que vous savez que Dieu, est-ce que Dieu sait combien de gens sont nés sur la terre? Est-ce que Dieu sait combien de gens iront au ciel? Oui, bien sûr. Et la Bible dit qu'à un moment donné, la totalité des païens sera rentrée. Il y en a un qui va monter en se frottant le front. Parce qu'une seconde après, il va réaliser qu'il a bien fait de se convertir. Dieu patiente. Dieu veut que l'évangile soit prêché dans toutes les nations. Et c'est fait. Nous étions en Polynésie il y a quelques mois. Et nous étions sur une île où venaient des gens d'une autre île encore plus perdue. Et tous les gens chantaient, ces gens-là chantaient des psaumes. Et je me disais quand même, quelle bénédiction! Même jusqu'aux extrémités de la terre, partout, des gens sont sauvés. Des gens qui venaient de Tahiti, d'une île, ils savaient tout juste parler le français. Mais je veux dire, c'était beau parce qu'ils chantaient des cantiques. Voilà. Aux extrémités de la terre, quand même, qu'on le veuille ou non, les chrétiens, ils ont fait leur travail. Ils ont été partout sur la terre et ils annoncent l'évangile. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des endroits, oui. Bon. Mais d'une façon ou d'une autre, l'évangile a été prêché à toutes les nations. Et ça, c'est un signe. Ça, c'est vraiment un signe, l'évangile sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin, pas la fin du monde, la fin de l'histoire de l'Église. Je vous l'expliquerai plus tard. Dieu patiente. Mais mes frères et sœurs, et c'est avec ça que je veux terminer, Jésus va revenir. Et on est là, bien sûr, c'est intéressant d'étudier ces choses. Vous allez voir l'étude sur l'Apocalypse que je prépare, je sais que ça va nous intéresser. Mais mes frères et sœurs, ce matin, vous qui n'êtes pas encore baptisés, vous qui venez régulièrement dans l'Assemblée, voulez-vous faire partie de ceux qui vont connaître la colère de Dieu? Parce qu'elle vient, la colère, elle vient. Elle vient, le jugement vient. Mais le péché de notre monde n'est pas encore tout à fait à son comble. Je ne pense pas qu'il en manque beaucoup. Parce que les blasphèmes, c'est quand même grave. On ne rit pas avec ça. Parfois, on me dit, mais est-ce qu'on peut... Vous voyez comment les gens sont influencés? Est-ce qu'on peut rire de tout? Même un enfant de 6 ans, c'est très bien qu'on ne peut pas rire de tout. Ça vous montre combien les gens sont vraiment influencés. Le jugement va venir sur la terre. Israël est redevenu une nation. Ça, c'est un signe. Les Juifs rentrent chez eux. Ça, c'est un signe. Le péché des nations est à son comble, ça c'est un signe. L'évangile qui est prêché aux extrémités de la terre, ça c'est un signe. Quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et le Seigneur, vous savez, il termine ses explications avec une petite parabole. Il donne la parabole du figuier. Vous savez, il donne la parabole du figuier. Il explique, quand vous verrez le figuier refleurir, le figuier c'est le premier arbre qui refleurit en Israël, eh bien, il explique, voilà, quand vous verrez le figuier refleurir, quand Israël sera redevenu une nation, sachez que l'été est proche, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Ce matin, c'est quand même une bénédiction. 24 janvier, nous sommes dans un jour de grâce. Vous pouvez dire Alléluia. Surtout si vous n'êtes pas, baptisé. Parce que les chrétiens, bon, on est prêts. J'espère. Mais quand même, combien de chrétiens ne sont pas prêts? J'ai fait allusion tout à l'heure à ceux qui... Quand même, moi ça m'a choqué, vraiment choqué. Que des chrétiens aient perdu la conscience. Ça c'est grave. Hein. Ça c'est grave. Hein. Mais il est écrit, il y a une prophétie qui dit que le maître de la maison... va se lever et va fermer la porte. La colère, elle vient. Ne priez pas pour qu'elle n'y soit pas. J'ai entendu quelqu'un se prier, Seigneur, permets que ta colère ne vienne pas. J'écoute, bon, c'est bien. Dieu interprète tout. Mais ce que je crois, c'est que ce n'est pas la peine de prier comme ça. Seigneur, délivre-nous de la colère à venir. Que ton sang précieux soit sur ma vie. Que je sois toujours en paix avec toi. Et si je la perds, eh bien, je vais la retrouver dans un moment de repentance. Je lui ai donné du temps. Vous voyez, dans cette église Apocalypse, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Dieu nous donne du temps. Ne vous inquiétez pas, Dieu est précis. Nous, parfois, dans certains domaines, nous le sommes. Alors, à combien plus forte raison, Dieu, dans sa perfection, c'est exactement ce qu'il fait et ce qu'il doit faire. Mais est-ce que vous faites partie des élus? Est-ce que si Jésus revenait maintenant, vous seriez prêts? Avez-vous accepté le temps de Jésus? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, est-ce qu'on peut terminer en priant pour les pécheurs de ce pays? Il y en a des pécheurs dans ce pays? Des moqueurs, des blasphémateurs. Est-ce que Paul, qu'est-ce qu'il était Paul quand il parle de lui avant sa conversion? Est-ce qu'il dit j'étais un blasphémateur? Est-ce que Paul était un blasphémateur? Oui, il l'a dit. Et vous avez vu ce qu'il est devenu? Les blasphémateurs, Dieu peut les changer. Ceux qui insultent, Dieu peut les changer. Les moqueurs, peut-être que dans votre famille, vous dites, oh celui-là c'est un blasphémateur, il est à fond pour ce qui s'est passé. Eh bien vous ne croyez pas que Dieu peut lui parler? Pourquoi Dieu veut qu'on ait des réunions de prière, des réunions d'évangélisation? Et nous, il ne nous a pas changés. Alors prions pendant quelques instants. Il nous reste quelques minutes. Utilisons-les avec cœur. Non pas pour prier. Peut-être que vous pensez à quelqu'un de votre famille, à un de vos fils, à une nièce, à votre conjoint. Vous croyez que Dieu peut l'atteindre? Et franchement, est-ce que vous croyez que Dieu peut toucher un blasphémateur? Oui, la colère vient. Le péché va être à son comble. Les nations vont admirer la bête. Lorsqu'en Europe, il y aura un gouvernant, un gouverneur qui va diriger le monde, on va l'admirer. Mais nous, on admire Jésus. Alors pensez à quelqu'un de votre famille que vous aimez, ou deux personnes, ou trois, vous avez compris. Et dans notre cœur, prions. Dans le cœur, Dieu voit tout. Il savait qu'à Gomorre, à Sodome, il y avait moins de 10 justes. Il les connaissait tous. Oui, il nous connaît par notre nom. Toutes les étoiles des galaxies, Dieu leur a donné un nom. Il les a toutes formées. Alors je vais vous dire, si le ciel et la terre vont passer, si tous ceux qu'il connaît parfaitement vont passer, nous ne nous passerons pas. Parce que nous sommes éternels. Et nous irons soit au ciel, soit à l'enfer. Et je m'adresse à ceux qui ne sont pas prêts. Oui, l'iniquité n'est pas à son comble. Ne dites pas, mais Dieu, moi je vis dans le péché, moi je vis dans le concubinage, mais Dieu me bénit. Oui, oui, Dieu bénit. Oui, et vous avez raison. Mais Dieu ne vous sauvera pas si vous vivez dans le péché, si vous cautionnez le péché. Oui, Dieu peut vous bénir, mais vous n'irez pas au ciel. Alors ne faites pas comme ces gens dans les psaumes qui disaient, mais Dieu ne fait ni bien ni mal. Non, soyez sérieux. Soyez sérieux. Prions quelques instants. Notre Père, fallait-il que tu nous aimes déjà pour nous permettre de t'appeler Père, toi, le Dieu Tout-Puissant. Tu as laissé dans ta parole tous ces textes, oui, pour nous montrer que tu es lent à la colère et riche en bonté. Nous le savons que tu donneras toujours aux pécheurs la possibilité d'entrer. Nous te remercions pour ta miséricorde. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de nous tenir prêts. Oui, que les linteaux, que les poteaux de notre maison soient couverts de ton sang précieux. Nous te bénissons, Seigneur, oui, nous t'admirons. C'est toi que nous admirons. Nous t'avons choisi à toi, et si le monde te rejette, nous te respectons et nous t'aimons. Tu vois les personnes à qui nous pensons dans nos familles. Nous te prions de les sauver, Seigneur, de les atteindre. comment tu as atteint Saul de Tarse? Comment tu as touché cet homme? Et qu'est-ce que tu en as fait? Alors Seigneur, s'il te plaît, fais-le dans nos familles. Atteins ces pécheurs. Puisque nous le savons que la colère va venir, que le péché va être à son comble, Seigneur, s'il te plaît, garde-nous. Garde-nous les yeux fixés sur toi. Et merci. Merci du fond du cœur de nous avoir rendus sensibles à ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.